Ô Dieu, ton bien-aimé fils, lorsqu'il était sur cette terre, disait « Le vent souffle où il veut et tu en entends le son, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. » Nous te bénissons de nous faire entendre ce matin le son du vent dans les arbres. Nous aimons à écouter ce bruissement des feuilles. Nous savons que nous ne sommes pas maîtres du vent. Nous ne voulons pas contrôler le vent. Mais nous voulons nous laisser emporter par le vent. Et tu nous dis qu'il est le symbole de ton esprit. Où tu voudras nous conduire, Seigneur, nous irons. Fais de nous ce que tu veux. Et donne-nous d'être dans le vent, non pas à la manière du monde, mais à ta manière, comme enfant de ton royaume. Que dans cette matinée, nous puissions éprouver la toute-puissance de ton esprit qui veut encore une fois nous saisir, nous donner la capacité de comprendre, de croire, et la force de mettre en pratique pour que nos vies te glorifient et aient un sens sur la terre. En vie. Amen. Nous sommes au vendredi 25 juillet. Et nous poursuivons notre étude, qui donc est Dieu, en nous plongeant une fois encore dans le Cantique des Cantiques. Le verset qui vous était proposé pour ce matin, c'est au chapitre 5, verset 1, mais pour bien le laisser dans le contexte, nous relirons depuis le verset 12 du chapitre 4. Tu es un jardin clos, ma sœur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. Tes plants sont un paradis de grenadiers, de fruits exquis, de hennés, de nard, de safran, de roseaux odorants, et de cinnamone, avec tous les arbres à encens, de myrrhe et d'aloès, avec tous les principaux aromates, une fontaine dans les jardins, un puits d'eau vive qui coule du Liban. Réveille-toi, Nord, et viens midi, souffle dans mon jardin, pour que les aromates s'exaltent, que mon bien-aimé vienne dans son jardin et qu'il mange ses fruits exquis. Je suis venu dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée. J'ai cueilli ma myrrhe avec mes aromates. J'ai mangé mon rayon de miel avec mon miel. J'ai bu mon vin avec mon lait. Mangez, amis, buvez, buvez abondamment, bien-aimés. Sanctifie-nous par ta parole et la vérité. Amen. Eh bien, je vous donne la parole. Qu'avez-vous vu dans ces passages que nous avons lus? Soit encore les quelques versets qui précèdent le chapitre 5, ou le premier verset du chapitre 5. Si quelqu'un a partagé une pensée, qu'il l'exprime à haute et intelligible voix. Oui.
Le verset 13 est au commencement du 5-1 aussi, non? Ça a été dit, par exemple, me réveille trois normes, c'est vraiment une vie nouvelle. Sauf dans mon jardin, que ces aromates s'exagent. Ça, c'est. En tout cas, moi, je vois ça comme ça, oui. C'est toutes les choses qui sont dans nous autres, qui sont méchants, qui nous empêchent d'avancer, des choses comme ça. Puis le bien-aimé, il dit c'est le vent souffle. En dit toutes ces tristesses-là, puis c'est encore ces chaleurs-là qu'on peut avoir sur le Seigneur, les chaleurs qui sont peut-être amères. Et puis tout dans mon jardin, c'est un peu quoi souffrir dans le jardin, parce que c'est pour exalter vraiment ces choses. Et si que mon bien-aimé vient dans ton rapport, là, le bien-aimé, là, quand ça tout est vraiment, on va dire, purifié, quand c'est comme ça, là, là, il vient dans ton rapport, là, c'est lui qui mange les fruits, parce que là, c'est ses fruits. Parce que le vent, c'est tout ce qu'il y avait dans nos cœurs, dans notre âme, dans nos actions, quoi que ce soit. Et là, le bien-aimé, ici, là, venu dans mon rapport, ma soeur, là, on voit que c'est parce que c'est la fiancée qui ne voit pas, là. Le bien-aimé, parce qu'il dit, oui, venez, je suis venu dans mon jardin. J'ai tout fait ça, moi, en fin de compte, que j'ai vu, il l'a tout accompli. Mais c'est parce que ce qui arrive, c'est que je ne vois pas ce que je mangé mon rayon de miel, j'ai cueilli la nuit, mes aromates, j'ai tout fait ça, moi, pour vous autres. J'ai vu mon vin avec mon lait. Mais manger, vous autres, manger, à nous durer aussi abondamment. Moi, c'est un détail un peu comme ça. Parce qu'en fin de compte, lui, il a tout fait, mais c'est nous autres qui ne voient pas. Et en fin de compte, c'est la bien-aimée qui ne voit pas.
Mm-hmm.
On va le comme ça, c'est lui.
Mm-hmm. Ce que je voudrais seulement dire, c'est que tout ce qui est dans le jardin, ce ne sont pas des choses mauvaises, ce sont toutes des choses excellentes, mais qui doivent être pleinement manifestées, et le vent qui souffle, le vent de l'épreuve, va faire exhaler le parfum de ces choses excellentes. Que lui a mis. Bien sûr, le Seigneur a tout accompli. Et bien souvent, nous n'avons pas conscience de tout ce qu'il a fait, de toutes les richesses qui sont en nous. Nous disons que nous avons la vie éternelle, mais nous avons besoin de la saisir. Saisir la vie éternelle, dit Paul à Timothée, qui avait la vie éternelle, mais vie de ces choses. Vie de cette vie éternelle. Quelqu'un d'autre?
Moi, c'est le mot « lire » qui me bouleverse le jour. C'est la cinquième fois qu'on le voit, puis ça m'a poussé de voir qu'il ne vient pas cueillir seulement le miel, mais il vient cueillir aussi la myrte. On a vu que c'était le symbole de ses souffrances.
Bien sûr. Ce que ces souffrances ont pu produire en nous, parce qu'on est entré dans la communion de ses souffrances. Et il y a des souffrances qu'un chrétien ne devrait plus connaître. Les souffrances que l'on peut endurer, comme conséquence de nos inconséquences, par exemple. Nous devrions devenir si sérieux que nous n'aurons plus à souffrir de conséquences de nos inconséquences. Si nous vivons dans la dépendance du Seigneur, nous deviendrons des gens conséquents. Et alors, il y a une foule de souffrances que nous n'aurons plus. Que nul de vous ne souffre comme meurtrier ou voleur, ou comme des gens qui font le mal, mais que si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, mais qu'il glorifie Dieu en ce nom, comme il le dit dans le chapitre 4 de la première épître de Pierre. Et l'apôtre Paul avait si bien compris cela qu'il disait que, au fond, il achevait en son corps ce qui manquait aux souffrances du Christ. Ce n'est pas qu'il manque quelque chose aux souffrances du Christ. Pour notre salut, ce ne sont pas des souffrances expiatoires, nous n'avons rien expié, nous. Mais pour qu'on arrive à la conformité du Seigneur, être conforme à lui dans sa mort, pour que tout cela se reproduise dans le corps, eh bien, Paul prêchait l'évangile, et à cause de sa prédication de l'évangile, eh bien, il devait souffrir l'incompréhension. De sorte que ce n'était plus les souffrances de Paul, mais c'était les souffrances de Christ. De Christ dans la formation de son corps. Alors, est-ce que nous sommes engagés dans ces souffrances-là? Le Seigneur vient aussi respirer la mire dans son jardin. Quelqu'un d'autre?
Moi, ce qui me passe c'est que quand il dit, il me semble, je suis venu dans le vaccin, je ne sais pas, c'est que quand il dit mon jardin, ma mire, mon aromate, mon rayon de miel, mon vin, mon lait, c'est tout lui appartient.
Tout lui appartient.
Tout provient de lui, tout lui appartient.
Absolument.
Par rapport, mettons, à l'autre chapitre, que c'était des choses qui étaient de belles en elle, mais c'était. Dieu ne lui avait pas révélé que ça provenait de lui.
De lui.
Là, c'est clair que c'est de lui. C'est bien de lui. Et que. Ça lui appartient.
Et puis, ouais, et c'est très juste ce que tu soulignes. Il y a une progression dans la révélation. Et tout à coup, elle va saisir ça. Oui.
Il y a une chose qui me frappe, mais aussi quand François va parler d'amour, j'ai pensé souvent, quand Jésus, les rois sont venus l'adorer, il a porté l'or, l'encens et l'amour. Déjà, dès son naissance, l'amour
était là, de ses souffrances, oui. C'est vrai. Vous pouvez suivre tout ce qu'elle a mis à travers l'écriture. Okay.
Le rayon de miel, la première pensée que j'ai vue en lisant, c'était le sortir ici parce que c'est Samson qui a trouvé un rayon de miel dans le lion. Encore quelque chose qui m'échappe là-dedans, là, mais ça m'est venu comme ça. Et après, c'est Lénine qui dit de celui qui mange est sorti, et qui se mange et du porc est sorti le doux. Mais il y a quelque chose qui m'échappe encore.
Mais tu vas demander au Seigneur qu'il se révèle. Hein. La semaine passée, on s'est occupé de cela, enfin, à l'autre camp. Parce que tu vas le comprendre. Oui? Oui, il y a tout un rapprochement à faire. Galates 5, verset 22. Quel?
Si moi je voyais dans mes ressources que mon bien-aimé or, et ça me faisait penser à la parole que Jésus dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, j'entrerai chez lui et je coucherai avec lui, et lui avec moi. Et la fin du verset 16 et le début du premier verset du chapitre 5, je faisais penser à ce verset. Bien souvent, on entend sa voix. C'est une bonne chose parce qu'on amasse des choses à l'intérieur. Mais il y a un temps, je crois, où il faut savoir ouvrir la porte pour que Jésus puisse récolter tout ce qu'il a fait dans lui.
Oui. C'est très juste et c'est édifiant pour nos âmes. Merci. Oui? Plus fort. Un peu plus fort si c'est possible. À cause du vent. Lève-toi parce que tu baisses la tête et alors la voix entre sous terre.
Jésus voit une très belle beauté intérieure de moi, intérieure d'une seconde nature qui reflète l'humain. Et que dans ce sens-là, c'est qu'il y a des choses qui empêchent d'exprimer cette seconde nature de moi. Des choses charnelles qui, tous les jours, vont empêcher de faire ma désobéissance continuelle face à Dieu, face à son plan, de tous les jours. Juste le fait de ne pas m'arrêter, de l'équiper, lorsque je sais très bien qu'il me parle, c'est le moment de m'arrêter. Ces choses-là qui empêchent de nourrir ma seconde nature et qu'elle soit dominante pleinement dans ma vie, c'est ça que pour moi, le vent du monde, ces choses-là pour moi, soit une bénédiction complète. Et elle le voit comme telle, la fiancée, parce qu'elle dit que mon bien-aimé vienne dans son jardin et qu'il dit le mot mange que moi je vois comme qu'il utilise. Et c'est utilise moi, c'est un peu ce que je vois. Et par rapport à ce que Paul vient de dire, dans le chapitre 5, c'est que je suis venu dans mon jardin tout à l'heure, il disait que les aromates s'exercent, j'ai cueilli ma mère et mes aromates. Donc pour moi, c'est me tromper, mais la façon dont moi je le vois en ce moment, peut-être ça peut changer, c'est que pour que ces aromates s'exercent, qui est dans le verset 16, chapitre 4, et dans le chapitre 5, j'ai cueilli ma mire avec mes aromates. J'ai mangé mon rayon de miel avec mon miel, j'ai bu mon vin avec mon lait. Il s'est rassasié à nous. Et comme accepté qu'il vienne en moi, comme accepté qu'il s'utilise mes fruits, il s'est rassasié par rapport à ça. Il va jamais à la tombe de ma volonté, mais quand j'ai dit oui, il se nourrit à moi. Et comme tu es bien chez toi, dans ton jardin, ça veut dire que c'est toi, là, c'est moi, c'est vraiment chez toi.
C'est lui. C'est vrai. Et c'est un vrai festin que l'on fait avec le Seigneur. Il est maintenant en nous, chez lui. Et c'est lui qui est le maître. Nous lui avons laissé les clés. Et c'est lui qui fait les invitations pour d'autres et qui distribue à d'autres tout ce qu'il y a en nous, mais qui vient de lui. Il n'y a plus une activité charnelle de notre part pour donner aux autres, c'est le Seigneur en nous qui distribue aux autres. Quelqu'un? Eh bien, mes amis, je pense que vous vous souviendrez de cette figure du jardin et de ce que nous avons essayé de vous montrer dans notre grande faiblesse hier soir au sujet du jardin d'Éden, du jardin de Gethsémané, du jardin de Joseph d'Arimathée et de notre cœur qui est maintenant un jardin. Un jardin dans lequel est une fontaine. Alors je vous le demande, ton cœur, jardin du Seigneur, est-il un jardin où se trouve un tombeau, un sépulcre, ou un jardin où se trouve une fontaine? Pour que, si ton cœur est un jardin contenant un sépulcre, pour qu'il devienne une fontaine, qu'est-ce qu'il faut mettre dans le sépulcre? Le grain de blé. Et si le grain de blé tombant en terre meurt, il ne restera pas seul, mais il produira des fruits, et ce sépulcre sera changé en une fontaine de bénédiction, et qui donnera son eau pure à d'autres âmes. Ce sera ce puits d'eau vive qui coule du Liban que vous pouvez rapprocher de la Pentecôte où l'Esprit fut donné de telle manière que des fleuves d'eau vive devaient couler du sein des disciples. Dans le chapitre 7 de Jean, cela était annoncé de ce qui arriverait quand le Saint-Esprit serait donné et baptiserait en un seul corps tous les rachetés. Alors vous pouvez encore méditer sur ce jardin et je veux croire que vous avez saisi que le Seigneur lui-même est le cultivateur du jardin. Laissez le Seigneur labourer ce jardin. C'est son jardin, comme la vigne est sa vigne. Et c'est lui qui s'occupe de faire produire du fruit, plus de fruits et du fruit qui demeure. Au chapitre 3 de la première aux Corinthiens, au verset 9, il est dit, vous êtes le labourage de Dieu ou le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. C'est le Seigneur qui travaille nos cœur. Et nous voulons vraiment nous laisser faire par lui. Dans le chapitre 6 des Hébreux, nous lisons qu'une terre qui est souvent arrosé. Verset 7. La terre qui boit la pluie, qui vient souvent sur elle, et qui produit des herbes utiles pour ceux pour qui elle est aussi labourée, reçoit de Dieu la bénédiction. C'est vraiment de Dieu qu'on reçoit la bénédiction. Mais si elle porte des épines et des chardons, elle est réprouvée auprès de la malédiction et sa fin est d'être brûlée. Alors, si vous êtes conscient qu'il y a encore dans votre cœur des épines et des chardons, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez y aller sans dents pour essayer d'arracher les épines et les chardons? Misérable, tu ne connais pas ce que le Seigneur veut faire? Chapitre 27 d'Ésaïe. En ce jour-là, il y aura une vigne de vin pur, verset 2. Chantez à son sujet. Moi, l'Éternel, j'en prends soin. À tout moment, je l'arroserai, de peur qu'on ne la visite, et j'en prendrai soin nuit et jour. Il n'y a pas en moi de fureur. Il était en colère contre nous, mais sa colère s'est détournée. Et si je vois des ronds et des épines en bataille contre moi, je marcherai contre elles et je les brûlerai ensemble. C'est le Seigneur qui va enlever les ronces et les épines. Laissons-le faire. Il va faire le désherbage, il va faire le grand nettoyage. Et laissons-le faire. Et alors, il le fait justement en envoyant le vent du nord ou le vent du midi pour purifier tout cela, comme notre ami Jacques le disait dans un sens, afin qu'il n'y ait plus que les bons fruits, les choses excellentes qui soient manifestées dans notre vie, mais tout ce qui est mauvais, c'est lui qui va l'enlever. Alors, ne replantons pas ces choses qu'il a rejetées. C'est ce que nous devons bien comprendre. C'est un jardin qui est pour lui. Ne laissons personne venir y semer quelques doctrines. C'est le jardin du bien-aimé. C'est son jardin. Il doit être fermé. Il n'est pas pour le public. Et c'est dans la mesure où le Seigneur aura pu s'occuper uniquement lui-même de son jardin qu'il fera que ce jardin sera en bénédiction par ses fruits à d'autres âmes. Je veux croire que vous comprenez bien ces liens entre tous ces passages. C'est plus merveilleux de lire la Bible ainsi que de faire des mots croisés. Comprenez-vous? Vous recherchez dans la parole tout ce qui correspond et un verset vient éclairer un autre verset et vous voyez qu'il y a une unité profonde dans toute la Bible. Nous avons lu aussi qu'il était question d'un paradis. C'était ce jardin un paradis de grenadiers. Les grenadiers, dans l'écriture, nous parlent symboliquement de la grande vigueur qui doit aussi se manifester en nous. Les grenadiers sont des arbres vigoureux et nous aussi, nous devons être pleins de vigueur, mais de vigueur charnelle, non. Il donne de la force à celui qui est là. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. C'est lui qui est notre vigueur. Ésaïe 40. À la fin du chapitre, les jeunes hommes courront et se lasseront, se fatigueront, mais ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Et c'est vrai, mes amis, qu'il y a dans la confiance éperdue que l'on met dans le Seigneur, un renouvellement de force. Sinon, nous serions par terre. Eh bien, nous renouvelons nos forces dans l'abandon au Seigneur. Et cela, ça fait pas seulement jour après jour, mais on peut dire moment après moment, quart d'heure après quart d'heure, minute après minute. nous dépendons du Seigneur. Et vous pourriez prolonger votre étude sur le paradis dans l'Écriture. Paradis perdu en Éden, puis nous avons vu qu'il y a actuellement un paradis dans le ciel où le Seigneur a conduit les âmes qui étaient dans le séjour des morts. En ressuscitant, il a emmené captive la captivité, lisons-nous, et il a fait des dons aux hommes. Et il y a des choses absolument merveilleuses. Et dans ce paradis, l'apôtre Paul, même avant sa mort, a été introduit. Mais comment il y a été introduit, il ne sait plus si c'est dans le corps ou hors du corps, peu importe, mais il a entendu là des choses ineffables. Ce qui nous montre bien qu'il pouvait dire après cela, en parlant de son délogement, de quitter son corps, qu'être auprès du Christ, c'était de beaucoup la meilleure part. Si nous devons vivre sur cette terre, il en vaut bien la peine, mais si nous devons mourir, nous ne devrions pas prendre ça comme une catastrophe. Nous n'allons pas au cimetière, ce n'est que notre tente, ce n'est que notre dépouille qui s'en va au cimetière, mais nous allons vers le Seigneur. Et j'ai assisté des mourants. Je dois dire que les mourants qui m'ont le plus édifié, eh bien, ce sont les jeunes. Des jeunes convertis. Quand ils partaient, ils avaient pu être fiancés, ils avaient pu avoir un tas d'attaches, je les avais connus comme ça. Puis le Seigneur a opéré un détachement, une fois qu'ils ont été au Seigneur, de sorte que c'était vraiment un enlèvement. Et ces lits de mort de jeunes convertis qui sont repris au fond, vers le Seigneur, c'est quelque chose de merveilleux. Ils sont ravis de devant le mal, et puis ils sont encore dans la flamme d'un premier amour, et alors ils partent dans cet amour. C'est un véritable envol de colombes. Mais je puis dire aussi que j'aurai toujours devant les yeux le départ d'un vieillard de 90 ans, il s'était converti à l'âge de 75 ans, qui a donc vécu encore 15 ans, alors qu'il était l'esclave du tabac avant, qu'il était l'esclave aussi de la boisson, et le jour de l'ensevelissement de sa femme, il s'est converti, sa femme avait prié, parce qu'elle était certaine que le Seigneur l'amènerait, même si elle ne le voyait pas. Elle a été exaucée le jour de son ensevelissement. Et j'ai eu le privilège de le tenir dans mes bras dans ses derniers moments. Il est parti dans une lumière éblouissante. Il s'est dressé sur son lit, puis son corps est retombé. Mais il était dans l'extase, s'en aller vers Jésus, la grâce de Dieu. Tandis un des infirmiers qui m'a soigné quand j'avais 15, 16, 17, 18 ans, quand j'étais dans ces hôpitaux, me disait, tu sais, quand on vient nous dire qu'il n'y a rien, qu'on vienne un peu dans certains hôpitaux, et qui voit mourir certaines personnes, et il employait cette image, il y en a qui grimpent les murs, tellement ils ont peur de la mort. Et d'autres, alors, qui s'en vont dans la joie, réalisant vraiment ce que dit la parole, que même en passant par la vallée de l'ombre de la mort, on n'a rien à craindre. Le Seigneur est avec nous. C'est vrai. Et alors, si les choses d'en haut nous ont occupés, si on a déjà visité en esprit un peu ces choses invisibles, ce monde invisible, pas en laissant courir notre imagination, mais en recherchant dans l'Écriture ce que l'on apprend sur le monde invisible, sur les choses d'en haut, oubliant les choses de la terre, alors on sait qu'on a tout devant soi. Et qu'est-ce qu'on laisse? Rien. Tout est devant nous. Et surtout, ce ne sont pas des choses. C'est une personne. C'est le Seigneur que nous allons rencontrer. Alors, Paul a raison quand il dit que, absent du corps, on est présent avec le Seigneur. Parce que tant qu'on est dans le corps, eh bien, nous marchons par la foi et non pas par la vue. Alors, nous n'avons pas encore le Seigneur dans la plénitude, mais quand nous quittons le corps, il n'y a plus aucune entrave, alors nous connaissons un bonheur plus grand. Alors, on ne sait plus ce qu'on doit choisir. J'ai une tâche à accomplir, et ce que je désire, c'est de pouvoir l'achever. C'était l'attitude de Paul. Je ne fais aucun cas de ma vie, ni ne la tiens pour précieuse à mes yeux, pourvu que j'achève la course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur, et que je puisse l'accomplir avec joie. Et sa prière a été exaucée. Il a pu dire, arrivé à la fin de sa course, alors qu'il était condamné à mort, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Mais il avait été ravi au troisième ciel et il savait où il allait en attendant la résurrection de son corps. Quand on meurt, ce n'est pas encore la gloire, parce que la gloire, aucune personne l'obtiendra sans nous, comme il l'est dit aussi dans le chapitre 12, ou fin du chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Et ensemble, quand le Seigneur viendra, qu'il aura ressuscité les morts en Christ, qu'il nous aura transmués par l'opération de son pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses, alors nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Paradis. Être dans le paradis. Dans ce paradis qu'il a promis à qui? À un brigand. À un brigand qui s'est reconnu pécheur, coupable, et qui a confessé que Jésus-Christ était le juste. Ce qui nous justifie, c'est de nous mettre d'accord avec Dieu. Je suis coupable. Mais lui n'a rien fait qui ne se dût faire. Alors, souviens-toi de moi. Et voilà la réponse de Jésus. En vérité, je te dis, tu seras aujourd'hui avec moi dans le paradis. Quelle certitude, quelle promptitude et quelle présence. En vérité, c'est la certitude. Je te le dis, tu seras aujourd'hui avec moi. Quelle promptitude. Aujourd'hui, c'est pas demain. Dans le paradis, avec moi. Quelle présence, certitude, promptitude, merveilleuse présence. Le paradis. Mais je voudrais encore vous parler quelques instants sur ces images du paradis. Le paradis, quand le Seigneur sera venu en gloire et qu'il aura libéré toute la création qui est en souffrance et qui gémit, toute la terre sera comme un paradis. Et particulièrement le pays d'Israël, qui devait être, pour Israël, s'il avait été fidèle, un pays ruisselant de lait et de miel. Et ce pays que Moïse a vu du haut du mont Pisga, eh bien, qu'est-ce qu'il a dit quand il l'a vu? Comment est-ce qu'il a pu le décrire? Ce bon pays qu'avaient visité les espions, Et notez bien que les espions n'ont pas dit que c'était un mauvais pays. Ils ont dit, oui, c'est un bon pays, il est ruisselant de lait et de miel, il y a toute espèce de bons fruits, puis quoi après? Mais, qu'est-ce qu'il y a? Les fils d'Anak. Et nous, à leurs yeux, nous étions comme des sauterelles. Voilà, on regarde à soi. Et on a peur. Mais pourtant, ils ont dit que c'était un bon pays. Lisez le chapitre 8 du Deutéronome, qui est une merveille. Et mettez le chapitre 8 du Deutéronome, ces passages, en parallèle avec les versets 13 et 14, 15, hein, du chapitre 4 du Cantique des Cantiques. Vous avez là un rapprochement qui est merveilleux. Verset 7 du chapitre 8 du Deutéronome. L'Éternel, ton Dieu, te fait entrer dans un bon pays, un pays de ruisseaux d'eau, de sources et d'eau profonde. Il y a tout. Qui sourdent dans les vallées et dans les montagnes, un pays de froment et d'orge et de vignes et de figuiers et de grenadiers et un pays d'oliviers à huile et de miel. Un pays où tu ne mangeras pas ton pain dans la pauvreté, où tu ne manqueras de rien. C'est le psaume 23. C'était cela les pensées de Dieu pour son peuple. Ils devaient entrer dans ce bon pays. Ils l'ont dénigré, ce bon pays. Ils n'ont pas estimé ce que Dieu leur donnait. Et alors, évidemment, ils n'y sont pas entrés. Et ce pays, à cause des jugements qui font dire sur lui comme punition de ses péchés, est devenu une désolation. Le plus beau des pays est devenu une désolation. Mais ce n'est pas pour toujours. Or, ce que nous voyons en ce moment, c'est un peuple qui veut réaliser lui-même les prophéties bibliques pour rendre ce pays qui était inculte un petit paradis. Et vous voyez les nations du monde qui s'acharnent contre cet effort. Et il y a des choses qui sont remarquables en Israël, mais l'on sent quand on parle aux Israéliens qu'ils n'attribuent rien à Dieu, mais tout à eux-mêmes. C'est leur force, c'est leur travail, c'est leur sueur. Et la bénédiction millénaire, c'est eux qui vont l'avoir. Par leur ingéniosité, ce sont les gens les plus intelligents du monde, c'est le pays le plus avancé qui est en pointe sur toute la ligne. C'est toujours moi, moi, moi. Il faudra qu'il passe par une terrible tribulation pour que, réalisant leur faillite, comme Moïse aussi a dû faire faillite, et si nous n'avons pas fait faillite, nous sommes en danger. Le Seigneur ne peut rien faire avec des gens qui croient encore en leur puissance. Il faut être amené à zéro pour que l'unité se plaçant devant le zéro, ça passe vite. Et si vous êtes arrivé à être 2-0, 3-0, 4-0 et 6-0, quand l'unité vient devant, ça fait une puissance plus grande. Et c'est cela qui est tellement encourageant. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Si même vous arrivez à vous dire, mais moi je suis un zéro sur toute la ligne, heureux êtes-vous. Laissez le Seigneur venir devant vous. Et ça fait la puissance. Ne regardez pas au zéro, regardez à l'unité. Il est là. Number one, hein? Alors, puissiez-vous le comprendre? C'est lui le premier. En tout le premier. Le Seigneur est le number one. Le Seigneur est le premier. Est-ce qu'il est le premier dans la vie? J'ai toujours à me poser cette question. Oui, c'est le Seigneur qui délivrera la terre Et alors on pourrait prendre des passages merveilleux. Ça sera comme un mariage entre le ciel et la terre. Les cieux béniront la terre et la terre aux cieux répondra. Chantons-nous dans un cantique que j'aime. Ce sera des relations toutes nouvelles, l'échelle de Jacob, en quelque sorte. Et je voudrais vous montrer quelque chose qui m'a frappé encore ces jours en pensant à Israël et à la prière de Moïse dans le chapitre 32 du Deutéronome, avant qu'il ne monte sur le mont Nebo au sommet du Pisga. Il parle de ce peuple d'Israël et il montre quelle est sa position géographique dans le monde. Quelle est la position géographique du pays d'Israël? C'est le centre du monde. Quelle est la position du cantique des cantiques dans la Bible? C'est le centre de la Bible. C'est quand même fantastique, ça. Et voilà pourquoi vous avez une telle richesse dans le cantique des cantiques. C'est le centre de la Bible, en quelque sorte. Et Israël est au centre du monde. Et regardez, comme il est dit cela au verset 8 du chapitre 32. C'est un verset que vous devriez souligner dans votre Bible parce qu'il est d'une importance capitale. Quand le Très-Haut partageait l'héritage des nations. Et quand est-ce que c'est qu'il partageait l'héritage des nations? Dans le chapitre 10 de la Genèse, nous apprenons à quel moment il a partagé les nations et qu'il a décidé quel peuple habiterait là, au nord, au midi, ou à l'orient, ou à l'Occident. C'est au verset 25 du chapitre 10, il naquit à Héber deux fils. Le nom de l'un fut Peleg, car en ces jours-là, la terre fut partagée. C'est en ces jours de Peleg que la terre fut partagée. Alors, Deutéronome, je reviens, quand le Très-Haut partageait l'héritage aux nations, c'était donc avant Abraham, au temps de Peleg, il séparait les fils d'Adam. Quand il séparait les fils d'Adam, il établit les limites des peuples selon le nombre des fils d'Israël. C'est fantastique ce verset. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple, Jacob, et le lot de son héritage. Et alors, ce peuple qui est dans la pensée de Dieu va devenir finalement dans le royaume, car le Seigneur devra régner, il faut qu'il règne, comme je le souligne souvent, dans le monde, il n'y a encore eu aucun gouvernement mondial humain. Et le dernier gouvernement mondial qui va se créer, c'est le gouvernement de la bête. Comprenez-le bien. Ce n'est pas un gouvernement divin, c'est le gouvernement du diable. Et nous y allons. Est-ce que vous n'êtes pas sensibilisé à cela? Toutes les puissances spirituelles de méchanceté sont à l'œuvre pour faire paraître l'homme de Satan, qui sera reconnu, même d'Israël. Jésus l'avait dit. Quand il en viendra un en son propre nom, celui-là, vous le recevrez. Et pendant 3 ans et demi, eh bien, Israël sera lié et donnera aussi son adoration à l'image de la bête. Mais c'est dans ce temps-là de la grande tribulation qui viendra sur la terre habitée tout entière que le Seigneur épurera son peuple, et tous ceux qui n'ont pas eu la possibilité d'entendre l'évangile de la grâce entendront l'évangile du royaume et pourront être sauvés. Mais ceux qui ont entendu l'évangile de la grâce et qui l'ont méprisé aujourd'hui, sur eux, une puissance d'erreur surviendra et ils croiront le mensonge. Pour quelle raison? Parce qu'ils n'ont pas eu, non pas la connaissance de la vérité, mais l'amour de la vérité pour être sauvé. Alors mes bien-aimés, dans cette dernière journée, est-ce que vous avez l'amour de la vérité pour être sauvé? Ou bien est-ce que vous n'avez que la connaissance de la vérité? La connaissance de la vérité ne vous sauvera pas. Au désert, vous pouvez répéter 1000 fois H2O, ça ne vous donne pas l'eau. La formule est juste. Hein? H2O, H2O, puis je crève. Mais si vous avez l'eau, hein, parce que le bédouin qui n'a pas du tout cette connaissance de la physique ou de la chimie, eh bien, de cette formule, le bédouin, il vit sans cette connaissance. Tandis que vous périrez avec votre connaissance. Et c'est cela qui doit nous alerter. Comprenez-vous? Quand je dis alerter, ce n'est pas pour vous faire douter de votre salut, mais pour vous affermir. Nous voulons être des gens sérieux, parce que nous avons une tâche sérieuse. Les âmes qui sont autour de nous, nous ne voulons pas les illusionner, mais nous voulons leur apporter, non pas un petit salut, mais le si grand salut de Dieu, qui n'est pas quelque chose, mais qui est quelqu'un. Quelqu'un. Et bien que la grâce de Dieu nous soit vraiment donnée, et que nous puissions comprendre les Écritures. Maintenant, vous avez demandé aussi au sujet du vent du Nord, mais peut-être qu'il faudrait que je termine le plus rapidement, mais certains se demandaient si c'était vrai que le vent du Nord était ceci, ou le vent du Midi cela. Je suis au fond très content que vous soyez un peu sceptique et que vous n'admettiez pas tout ce que je dis comme du pain béni. Je ne suis qu'un homme, un pauvre homme, bien limité et qui va passer. Alors, vous avez le droit de demander des références. Job, chapitre 37, verset 9, parlons du vent du Midi et du vent du Nord. Des chambres du Midi vient le tourbillon, et des vents du Nord le froid. Ça, c'est la version Darby. Vous pouvez prendre votre version second. Et vous avez aussi au verset 17, « Pourquoi tes vêtements sont chauds quand ils donnent du repos à la terre par le vent du Midi ?» Le vent du Midi, c'est un vent chaud, je vous l'ai dit. Alors, j'espère ne pas vous avoir menti. Je l'ai connu une fois, le vent des sables dans le désert. Et c'était une tempête de sable incroyable. Et quand je suis arrivé à Beersheba, eh bien, mes amis, j'arrivais pas, et pourtant j'étais habillé, je n'avais pas de nudisme, j'arrivais pas à m'enlever tout le sable que j'avais dans le nombril, sous la douche. Ça avait pénétré partout. Quand on mangeait un steak au restaurant, ça craquait. Mais oui, c'est vrai, ça. On vit ces choses-là. Et vous savez, ça aurait pu être drôle d'avoir une panne d'automobile au désert dans le sable. Hein. Ça aurait pu arriver. Et c'est encore autre chose qu'une panne de voiture dans la neige. Psaume 89, verset 13. Au verset 12. Le nord et le midi, toi tu les as créés, le vent du nord, le vent du midi. Oui, c'est parler encore du vent du nord et du vent du midi. Mais je pense que vous trouverez vous-même aussi tous ces versets, et Luc en particulier, verset 55 du chapitre 12e. Et je laisse maintenant tout cela, parce que je pense que vous êtes rassurés, et nous terminons par l'invitation de la bien-aimée qui maintenant a bien compris qu'elle devait être comme jardin, un jardin clos, une source fermée, une fontaine scellée, pour que le Seigneur puisse lui-même y vivre entièrement et faire d'elle ce qu'il veut. Alors, il a fait souffler dans son jardin ses vents, c'est où le jugement de soi-même par certaines épreuves, ou alors la discipline à laquelle tous nous participons. Nous sommes sous ce vent-là, tous nous participons à la discipline, mais même quand le Seigneur doit nous châtier, il n'y a pas de colère. Celui que le Seigneur aime, il le discipline, et il fouette tout fils qu'il agrée. Nous sommes reconnaissants que le Seigneur ne nous laisse rien passer quand nous lui appartenons. Il y a un tas de personnes où il semble qu'ils peuvent faire n'importe quoi, qu'ils ne sont pas pris. Tandis que nous, on est toujours pris. Vous avez déjà remarqué ça? Quand on se laisse aller, paf, la correction. Et c'est heureux, c'est parce que nous sommes des enfants, des fils. On n'est pas des bâtards. Alors il nous discipline. Alors nous avons encore la preuve que nous lui appartenons. Donc nous rendrons grâce pour toutes choses. Alors maintenant nous sommes conscients, bien Seigneur, tu peux venir, oui, viens. Et il a déjà répondu, il est là, mais il ne s'impose pas. Je le dis souvent, Jésus n'est pas un violeur d'âme, il veut que vous ouvriez la porte. Je me tiens à la porte et je frappe. Il n'a pas un passe-partout pour ouvrir. Il pourrait le faire, mais il ne le fait pas. La clé de chaque cœur est à l'intérieur et c'est à nous d'ouvrir. Alors il vient, je suis venu dans mon jardin, ma sœur m'a fiancée, et vous avez trouvé que c'était ma myrrhe, mes aromates, mon rayon de miel, mon lait, mon vin, avec, oui, tous ces fruits exquis. Et l'invitation maintenant, mangez, amis. Buvez abondamment, bien-aimés. C'est vraiment un merveilleux appel que l'on trouve à plusieurs endroits dans l'Écriture. C'est la voix de la sagesse qui a taillé ses 7 colonnes, qui a bâti sa maison, comme on l'a vu l'année passée, chapitre 9 des Proverbes. Elle a tué ses bêtes, elle a missionné son vin, elle a aussi dressé sa table, elle a envoyé ses servantes. Elle crie sur les sommets, sur les hauteurs, qui est simple, qu'il se retire ici, venez manger mon pain et buvez du vin que j'ai mixionné. Laissez la sottise, vivez et marchez dans la voie de l'intelligence. Il y a cette invitation par la sagesse divine. Et un autre passage dans Ésaïe 55. Et vous voyez que l'invitation est faite à tous. « Oh, quiconque a soif, venez aux eaux, et vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter et manger. » Oui, venez acheter sans argent et sans prix, quoi ? Du vin et du lait. Le vin qui est le lait des vieillards, le lait, ben parce qu'il leur donne un peu de force. Et le lait qui convient à l'âge tendre. C'est merveilleux ce que le Seigneur nous dit. Pourquoi dépensez-vous l'argent pour ce qui n'est pas du pain et votre labeur pour ce qui ne rassasie pas? Puissions-nous méditer et méditer encore sur ces invitations. Et puis, allant dans l'Évangile, vous trouverez dans Matthieu 22 la parabole du grand souper, de l'invitation, les noces sont prêtes et le Seigneur envoie un message aux invités. Mais vous le savez, ils ne voulurent pas venir. Vous ne voulez pas venir à moi. C'est pas, vous ne pouvez pas venir. Il n'y a personne ici qui pourra trouver une excuse en disant « Je n'ai pas pu ». Ce n'est pas vrai. Je n'ai pas voulu. Apocalypse, la fin de l'Apocalypse, que celui qui veut prenne gratuitement de l'eau de la vie. Il n'est pas dit que celui qui peut, mais que celui qui veut. Et alors Jésus nous a avertis au chapitre 13 de Luc, au verset 23e, quand on lui pose la question, « Seigneur, ceux qui doivent être sauvés sont-ils en petit nombre ?» Il leur dit, « Luttez pour entrer par la porte étroite, car beaucoup, je vous le dis, chercheront à entrer et ne le pourront pas. Dès que le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, comme la porte de l'arche fut aussi fermée, et on ne pouvait plus y entrer. » C'est pas Noé qui a fermé la porte, c'est le Seigneur. Et que vous vous serez mis dehors à heurter à la porte. Pourtant, on a dit heurter et il vous sera ouvert. Mais si vous heurtez pas maintenant, pendant le temps de la grâce, ce sera trop tard. Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Et que répondant, il vous dira, je ne vous connais pas, ni ne sais d'où vous êtes. Alors vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu en ta présence, tu as enseigné dans nos rues. Il dira, je vous le dis encore, je ne vous connais pas, ni ne sais d'où vous êtes. Nous, nous pensions le connaître, mais lui ne nous connaissait pas. Nous avions une information sur Jésus, mais nous n'étions pas en relation avec lui, parce que ce ne sont pas des gens qui ont perdu leur salut, ce sont des gens qui ne l'ont jamais eu. Parce que ces brebis, il dit, je les connais. Tandis que Dieu, il dit, je ne vous connais pas. Alors, c'est clair, il n'y a pas à s'y tromper. Et alors, là seront les pleurs, ils seront jetés dans l'étang de feu, là seront les pleurs et les grincements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, mais vous jetez dehors. Et alors, c'est là la surprise, il en viendra. D'où? D'Orient, d'Occident, du Nord et du Midi. Et ils s'assiéront dans le royaume de Dieu, donc des gens qu'on avait dit, c'est des gens qui ne seront jamais sauvés, mais c'est lui qui sauve. Et il en veut du nord, du midi et de partout. Et voici, il y a des derniers qui seront les premiers et les premiers qui seront les derniers. Il y aura de grandes surprises. Et mon dernier texte, c'est dans l'Apocalypse, au chapitre 19e, et vous voyez que c'est vrai, quand on a la vision de la salle des noces, où seront célébrées les noces de l'agneau, les noces du Seigneur et de celle qu'il s'est fiancée, je vous ai fiancée à Christ, ma sœur, ma fiancée, il y a les noces, eh bien, au verset 6, jouis comme une voix d'une foule nombreuse, comme une voix de grandes eaux, comme une voix de fort tonnerre, disant « Alléluia !» Car le Seigneur, notre Dieu, le Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous et tressaillons de joie et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues et sa femme s'est préparée. C'est là notre ministère maintenant. Nous, nous préparons. Et il lui a été donné d'être vêtu de fin lin éclatant et pur, qui sont les justices des saints. La robe qui nous sauve, la robe de justice, c'est lui qui nous l'a donnée. Mais ensuite, nous avons un autre vêtement que nous confectionnons depuis notre conversion. Nous travaillons à notre propre salut, ce si grand salut, et c'est les justices des saints. Car toutes nos œuvres depuis notre conversion seront manifestées. Et nous demandons au Seigneur que vraiment elle puisse supporter l'éclat de sa lumière, car toutes vos œuvres depuis votre conversion paraîtront devant le tribunal de Christ. Nous serons tous examinés au tribunal de Christ, non pas pour être jugés quant à nos âmes, puisque nous avons le salut, nous ne viendrons pas en jugement, mais nous serons jugés quant à nos œuvres. Et là, nous recevrons le blâme ou la récompense. Mais à ce moment-là, nous serons dans des corps glorifiés et nous serons d'accord avec Dieu. Et quand nous verrons plusieurs passer avant nous, qu'est-ce que nous ferons? Nous acclamerons, parce que nous aurons la même pensée que Dieu. C'est juste ce que tu fais. Nous penserons comme Dieu. Mais alors, souvenons-nous de cela. Ne disons pas, bon, moi, j'ai pas besoin de travailler pour une couronne. On travaille pas pour une couronne, pour nous couronner nous-mêmes, mais pour jeter la couronne aux pieds du Seigneur. Pour ne pas avoir les mains vides. C'est seulement ce qu'il aura produit que nous pourrons lui rendre. Comme David le dit, c'est ce que tu nous as donné que nous te rendons. Dans le chapitre 29 des Chroniques. Et il est dit qu'il y en aura de toute langue, de toute tribu, de tout peuple, de toute nation. C'est merveilleux, c'est le Seigneur qui aura la victoire. Mais soyons de ceux qui se laissent enseigner par la parole. Dieu notre Père, nous te louons et nous te bénissons de ce que tu nous aimes tellement. Et à la fin de cette première semaine de camp, nous voulons te rendre grâce de nous avoir permis d'arriver jusque-là. Et maintenant, nous voulons te demander que tu puisses, en chacun de nous, trouver ce que tu désires pour le distribuer à ces âmes qui ont faim. Et que tu appelles à venir manger et boire. Venez, amis, buvez, buvez, bien-aimés. Que ce soit toi qui invites en nous pour ta seule gloire. Et que ce soit toi qui présides à ta table dans nos cœurs. Et que notre coupe déborde. Amen.